Cynthia Izzarelli.
Bonjour Olivier Ball.
Bonjour Cynthia.
Vous êtes une des plus grandes voix du thriller français, ancien journaliste. Vous avez publié 7 romans en quelques années seulement. Votre écriture, elle est très visuelle, très cinématographique. Elle nous plonge souvent au cœur des zones d'ombre de l'âme humaine. Vous revenez aujourd'hui avec Le Piège, qui est paru chez XO Éditions. C'est l'histoire d'une chasse à l'homme à travers les États-Unis. Une chasse qui va durer 10 ans et qui va voir s'opposer donc deux civils, Frank Lombardo et Harry Miller, dans un duel psychologique violent où l'un est la proie, l'autre le traqueur. En tout cas, c'est ce que vous nous faites croire. Les raisons et motivations de cette violence, elles sont loin d'être évidentes, on va les révéler au fil des pages. Et donc, avec ce roman, vous revenez à l'Amérique de vos premiers romans, mais aussi à une narration très intime, à la première personne. D'où est partie cette histoire? De quelle envie elle est née?
Cette histoire, je la porte en moi depuis une bonne dizaine d'années. J'ai été très marqué par plusieurs faits divers qui sont survenus, on va dire, durant les années 2000, avec des personnes qui, suite au décès d'un proche, un enfant, une femme, une épouse, décidaient de traquer, de retrouver la personne à l'origine de ce drame. Sauf que souvent, la police intervenait au bon moment, il y avait une justice. Et je me suis toujours interrogé sur cette problématique en me disant « et si ?» Et si cette personne avait pu continuer à traquer celle qui était à l'origine de son drame, de sa blessure. Et ainsi est née l'idée de cette vengeance sans fin, de cette traque sans fin entre Harry Miller et Frank Lombardo.
Oui, c'est vrai que la police, les policiers sont présents dans le roman, mais en mode mineur, si je puis dire. C'est aussi en sous-texte une histoire qui parle d'un certain échec du système policier, du système judiciaire, en tout cas aux États-Unis.
En tout cas, c'est sûr que c'est une histoire qui s'interroge sur le comment vivre la justice, comment faire justice. Moi, je crois en la justice, hein, vraiment fondamentalement, et j'espère que quand même je le raconte dans le roman, à travers ce personnage, donc entre face à ce duel, comme une sorte de balance entre ces deux hommes que tout oppose, il y a ce personnage de Léa, qui est une femme policière qui travaille aux homicides, et elle, en effet, croit en la justice, fait tout pour continuer à défendre cette justice, mais il est vrai qu'on est dans des sociétés où il est de plus en plus difficile de faire justice, où la haine est rampante, où on est de plus en plus refermé comme ça sur nos convictions. Et c'est ce que raconte aussi un peu le livre.
Oui. Alors, ce duel entre Frank Lombardo et Harry Miller, il repose un peu sur des mécanismes presque mythologiques. Hein. On est dans un duel, un binôme, des némésis. C'est une mécanique qu'on connaît en littérature, qui fonctionne très bien, surtout dans un thriller. Ici, évidemment, vous nous évitez le côté binaire du gentil versus le méchant, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Néanmoins, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette mécanique du binôme?
En fait, ce qui m'intéressait vraiment ici, c'est d'aller un peu chasser nos zones d'ombre. Moi, ce qui m'intéresse dans mes bouquins, c'est toujours d'avoir des personnages faillibles, fragiles, qui sont toujours à la frontière. Je m'intéresse plus aux fêlures qu'aux gens parfaits. Je suis plutôt inquiété par les gens qui se définissent. Les gens qui se définissent comme parfaits me font plutôt peur qu'autre chose. Et en effet, ici, ce qui m'intéressait, c'était vraiment parlait notamment de ce Harry Miller. Donc Miller, pourquoi Miller? Parce que c'est, je crois, l'un des 3 ou 4 patronymes les plus donnés aux États-Unis. Et j'avais cette envie du monsieur normal. C'est vraiment monsieur tout le monde, c'est votre gentil voisin. C'est un homme d'une 40aine d'années au début du livre qui est effacé, qui s'est peut-être laissé un peu glisser, qui s'est peut-être un peu perdu de vue lui-même, et qui d'un seul coup, suite à un drame, suite au drame au cœur de cette histoire, va finalement sombrer, et va finalement glisser dans une forme de folie, de vengeance obsessionnelle. Et j'aimais travailler ce personnage et m'intéresser à ça, parce que je pense qu'on est finalement tous sur le fil du rasoir, entre bien et mal, et qu'à un moment, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. À l'inverse, Franck, lui, c'est quelqu'un qui, déjà au début de l'histoire, est poursuivi, hanté par ses démons, a énormément de blessures. C'est quelqu'un qui vit d'un séjour en prison à un séjour en prison. Et finalement, il va faire une rencontre dans le livre où il va penser peut-être trouver sa rédemption. Ça va pas se passer comme ça. Mais donc voilà, ces deux chemins croisés, ces deux personnages qui, moi en tout cas, m'interpellent parce qu'ils nous confrontent à nos parts d'ombre.
C'est vrai qu'il y a deux mécaniques inversées, hein. Un personnage tout à fait dans la norme qui va sombrer et un personnage à la marge qui lui est en quête de rédemption. Le message aussi, c'est qu'on peut tous et toutes être un Franck ou un Harry si à un moment le système nous lâche.
C'est exactement ça, c'est vraiment cette réflexion que il ne suffit pas de grand-chose pour perdre pied. Et ça, c'est peut-être pour le personnage de Harry. Et pour le personnage de Franck, je pense que la leçon à tirer toute cette histoire, c'est peut-être apprendre à vivre avec ses blessures, ses fêlures, accepter de regarder en arrière, parce que c'est le problème qu'a Franck, c'est qu'il se refuse à regarder sa propre histoire, à faire face à son passé, à ses démons. Et puis voilà, je pense que ça raconte aussi un petit peu notre époque, à travers ce récit de notre rapport à la haine. Ce qui m'intéressait ici, c'est une thématique que j'ai déjà abordée dans un précédent roman, La Meute, mais de manière un peu plus politique, à travers la montée à l'époque, je parlais voilà, la montée de l'ultra-droite, du fanatisme, quel qu'il soit un peu politique. Ici, c'était plus m'intéresser à la haine, mais d'un point de vue plus quasiment philosophique, se demander à travers cette vengeance entre ces deux personnages qui va durer 10 ans, ce jeu du chat et de la souris, du chasseur et de la proie qui va s'inverser, s'interroger sur cette idée qui pour moi sous-tend tout le livre, jusqu'où la haine. C'est ce que dit notamment Franck dans le livre un moment, c'est se demander finalement si leur histoire ne raconte pas notre histoire à nous, l'histoire de notre époque. C'est que en fait ils se détestent tellement qu'ils en oublient finalement la raison de leur haine. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'on voit quand même beaucoup en ce moment. C'est on ne se parle plus, on ne fait que surler au visage, il n'y a plus de dialogue et on est tous voilà un peu enfermés dans nos convictions.
Et vous écrivez d'ailleurs que dans l'Amérique contemporaine, la violence devient le seul langage. Est-ce que le piège, même s'il n'aborde pas frontalement des thématiques politiques, reste néanmoins un roman politique à certains aspects ?
Oui, je l'espère, mais j'ai pas prétention à faire le donneur de leçons. Moi, j'ai posé dans ce livre des réflexions sur le monde, sur notre époque. Chacun peut aller y puiser. Certains s'arrêteront juste au thriller haletant, et ça me va très bien. Certains vont peut-être trouver de l'émotion, parce que pour moi, ce roman, c'est plus qu'un thriller, c'est avant tout une histoire d'amour assez tragique. Et d'autres vont aussi y voir une peinture de l'Amérique et de nos sociétés modernes, puisqu'en effet, à travers cette traque, d'un état à l'autre pendant 10 ans. En fait, pour moi, c'est un voyage à travers les États des Unis, c'est cette Amérique des oubliés, des laissés pour compte. On retrace 10 ans d'Amérique. Donc ça va être la montée au pouvoir de Trump, ça va être la crise du Covid qui a divisé le pays comme jamais, mais qui a divisé nos pays aussi comme jamais. Ça va être la prise du Capitole, par exemple. Donc une époque de grande violence, une époque où aussi chacun se renferme dans ses convictions. On a les MAGA aux États-Unis. En fait, plus on essaie de les confronter à la vérité, plus ils s'enferment dans leurs théories complotistes. Et c'est aussi un peu le personnage de Harry qui, lui, plus on va essayer de lui dire, mais c'est fou, cette vengeance, il faut que ça s'arrête. Même finalement son propre associé qui l'accompagne durant cette traque, à un moment va essayer de le ramener à la réalité, et plus il essaie de faire ça, plus Harry va se conforter dans sa folie, et je crois que c'est un peu le fruit de notre époque.
Ouais. Et c'est vrai que cette réalité, vous la dépeignez aussi au travers des paysages que l'on traverse, parce qu'on est loin de l'Amérique de carte postale. On traverse des villes comme Reading, Chester, Neyhart ou Columbia, soit des villes abandonnées ou rongées par la pauvreté et la violence sociale. Tout cela fait un écrin effectivement à l'histoire que vous voulez raconter. Alors, le thriller, le genre thriller, le genre polar, même si on l'a compris, ce n'est pas que ça, ce roman, est souvent, de plus en plus en tout cas, critiqué pour sa représentation des violences faites aux femmes, parfois utilisées comme simple moteur narratif au détriment de ce que ça implique aussi comme vision de la société et vision d'une certaine politique. Comment vous situez par rapport à ça aujourd'hui ?
Évidemment, je pense que c'est vraiment un sujet important. Aujourd'hui, il y a, je crois, un féminicide tous les 3 jours. C'est un sujet terrible. J'ai l'impression quand même que depuis quelques années, il y a une vraie prise de conscience. Les lignes bougent. Il y a une prise de conscience à la fois en termes de justice, en termes de prise de parole, de responsabilisation aussi de la police sur ces problématiques-là. Et nous, on est en écho. C'est vrai que on pourrait avoir tendance à aller sur une forme de cliché dans certains thrillers avec les femmes victimes, les femmes qui sont toujours au cœur d'histoire, qui sont finalement dirigées par des hommes. Alors, on pourrait croire que c'est le cas ici dans ce bouquin, mais ça l'est pas vraiment, puisque ma victime, Joanne, en fait, existe dans ce roman. Elle a la parole, elle se révèle à travers ses carnets, son histoire, sa complexité, sa fragilité, ses doutes. Et moi, ce que je voulais raconter dans cette histoire, c'est aussi le parler finalement des échos de la violence. Combien finalement, pour un drame, pour une victime, ce sont beaucoup de personnes qui souffrent et qui sont des victimes collatérales, des familles, des proches, et parler aussi des répercussions, des ricochets de la violence. Que j'essaie de raconter dans cette histoire, c'est comprendre les mécanismes de la violence. Pourquoi est-ce qu'à un moment, un quidam va devenir violent? Est-ce que c'est ancré en lui? Est-ce que c'est pas sa propre histoire qu'il reproduit? J'ai quand même l'impression que parfois, souvent, ce sont des victimes qui deviennent des bourreaux. Et donc, à travers le personnage de Léa, qui va un moment s'interroger, parce qu'elle est donc policière aux homicides, et elle arrive toujours trop tard. C'est-à-dire qu'elle arrive au moment où il y a un cadavre, où il y a eu une violence qui a été faite. Elle se demande s'il n'y aurait pas moyen de peut-être remonter aux origines. Et elle va réfléchir en se demandant si finalement il ne faut pas aller écouter au moment où c'est encore possible auprès de ces jeunes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient, des violences au domicile, des violences auprès des familles, auprès des proches. Ça peut être aussi du harcèlement. Et se dire, est-ce qu'il faut que je ne sois pas là à l'écoute pour éviter que demain, ces jeunes reproduisent le modèle. On a l'impression quand même que la violence est un cycle sans fin, donc vraiment au niveau individuel, hein, comme quelque part au niveau d'un peuple, qui se reproduit, l'histoire se répète sans cesse et sans cesse. Comment entraver ça? Comment essayer de trouver des solutions? Je ne sais pas, mais je m'interroge, quoi.
Un roman tendu, sombre, profondément humain, donc où la véritable question, on l'a compris, n'est peut-être pas de savoir qui chasse qui, mais ce que la violence finit par faire de nous. Le Piège, c'est paru aux éditions IXO et c'est signé Olivier Ball. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et dans la suite, c'est Mélanie Joris qu'on retrouve. Bonjour Mélanie.
Bonjour Cynthia.
Les Bonnes Colonnes, c'est avec vous ce matin. On va parler de celles qu'on nomme les revenantes. On va s'intéresser à la manière dont ces femmes revenues de Syrie sont jugées en France.
Oui, on peut le dire, jusqu'à il y a une dizaine d'années, elles étaient jugées très différemment des hommes. Et puis en 2016, ça change. La France a même la réponse la plus sévère au niveau européen, même si l'engagement de ces revenantes est souvent analysé de manière très genrée.
On découvre tout cela après le rappel des titres de Florence Urner. Il est 9h30.